Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Telegram et l'arrestation de son patron, Pavel Durov, avec un invité, Ivan Kwiatkowski. Bonjour Ivan.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Marc-Antoine Lezieux.
Bonjour.
Paul Amar.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et Nicolas Ruff.
Bonjour.
Alors Yvan, on a déjà réalisé des épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas suivis, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Ouais, avec plaisir. Alors donc je m'appelle Ivan Kwiatkowski et je suis chercheur en cybersécurité spécialisé dans le domaine de la threat intelligence et je travaille dans la société qui s'appelle Arfang Lab, française qui édite un EDR. Je précise cependant qu'ils m'ont aimablement invité à les tenir à l'écart de mes petites croisades personnelles et donc ce soir j'interviens vraiment en tant que particulier et les opinions très stupides ou voire très intelligentes, on n'est pas à l'abri, que vous entendrez n'engagent que moi.
Merci Yvan. Alors, est-ce que tu voudrais bien en premier lieu revenir sur les faits ?
Ouais. Effectivement, il y a eu entre une et deux semaines un fait d'actualité qui a eu beaucoup de retentissement en France, mais aussi à l'étranger. Et ça a été l'arrestation de Pavel Durov dans un aéroport français, c'est-à-dire au Bourget. Donc, pour revenir un peu sur la chronologie. Il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte le 8 juillet 2024, ce qui voulait dire qu'il était officiellement recherché sur le territoire. Et le 24 août, il est arrivé en France et à ce moment-là, quand il est passé à l'aéroport, il a été arrêté immédiatement. Donc, suite à quoi il a fait 96 heures de garde à vue, ce qui, de ce que je comprends, correspond à des conditions particulièrement dures et qui sont en général associées aux affaires de terrorisme et crimes très graves. Et enfin, il est ressorti à l'issue de ses 96 heures de garde à vue en liberté conditionnelle, donc avec une caution de 5 millions d'euros et l'obligation de pointer au commissariat deux fois par semaine. Voilà. Donc Pavel Durov, qui est exactement, il s'agit du cofondateur et PDG de la société qui édite le logiciel Telegram, donc qui est messagerie, réseau social, on en rediscutera un peu plus en détail, et donc il lui a reproché tout un ensemble de choses, il y a 12 chefs d'accusation, là aussi je pense que ce sera intéressant de rentrer un peu dans le détail de ce qui lui est reproché, mais en tout cas ça a fait beaucoup de bruit, parce que Telegram est une application qui est utilisée par des millions de personnes, et donc il y a eu un petit peu de confusion sur quelle était vraiment la nature de sa arrestation, est-ce que c'est une attaque contre Telegram, est-ce que c'est une attaque contre la liberté d'expression, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà. Donc ça va être l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire.
Alors parmi ces choses, on peut peut-être commencer par les aspects sécurité et chiffrement de Telegram.
Bah, au-delà de la partie crypto, il y a pas mal de problèmes de sécurité dans Telegram. Tu vois par exemple un utilisateur, il est possible de retrouver un utilisateur et le canal dans lequel il est, parce qu'en fait il y a des services par exemple russes qui ont scanné et qui continuent à scanner totalement Telegram tout le temps, et ils sont capables, tu poses un, c'est payant bien sûr, mais tu fournis un nom d'utilisateur et hop, tu peux savoir où est-ce qu'il se trouve, dans quel canal, avec pas mal d'informations. De la même manière, tu peux récupérer, il y a pas mal de scripts qui permettent de le faire, mais c'est pas très compliqué, l'adresse IP d'un utilisateur Telegram. Dans certains cas, tu peux même géolocaliser. Donc en termes de sécurité, c'est pas exceptionnel. Et je parle pas des vulnérabilités et des exécutions de code à distance. Il y a des codes d'exploitation pour exécuter des codes à distance sur Telegram. J'ai un petit peu plus proportionnellement que ce que tu peux trouver sur du WhatsApp, iMessage de Apple ou du Signal.
Et la partie chiffrement ?
La partie chiffrement a été auditée quand même par deux entreprises extérieures, Kudelski et X41, je crois. Et bon, effectivement, ce n'est pas des constructions cryptographiques standards, donc c'est difficile de se faire un avis définitif. Mais en tout cas, ça part de primitives standards tels que SHA, AES, etc. Donc, et les audits externes n'ont rien trouvé. Donc, potentiellement, c'est pas non plus. Ça ne va pas être cassé par le premier venu.
Ça semble relativement solide.
Alors, on a entendu dire que les données étaient en clair. C'est chiffré ou les données sont en clair ?
Le canal de communication entre ton terminal et Telegram est chiffré. Et ensuite, il y a un nouveau chiffrement entre le serveur de Telegram et le terminal de la personne à qui tu envoies le message. Mais par contre, sur les serveurs de Telegram, le message, il est reçu déchiffré, il peut être stocké, il est stocké, on ne sait pas combien de temps. Et voilà, donc finalement, tu n'as pas le chiffrement de bout en bout où tu peux t'assurer que ton message vraiment ne sera lu que par le destinataire.
Voilà. Ou alors, tu as un deuxième mode où tu as le chiffrement de bout en bout qu'il faut aller chercher très très profondément dans les options et qui là permet d'avoir le chiffrement donc, de mon terminal jusqu'à ton terminal. Et c'est donc de celui-là que Nicolas parlait, ce fameux MT Proto, bon, qui est peut-être un peu plus audité que ce que je le savais. Mais au final, on s'en fiche un peu parce que personne ne s'en sert. Voilà, parce que c'est pas par défaut. Et que finalement, ça représente une minorité des communications et que c'est pas disponible, je crois, pour les communications pour les grands groupes de toute manière. Donc, ça reste marginal.
Oui, parce que la crypto, ça empêche certaines propriétés intéressantes aussi, comme le fait de pouvoir lire les messages antérieurs dans un groupe qu'on rejoint. Enfin, ça, c'est tous les gens qui ont utilisé Signal, par exemple, de manière un peu sérieuse, savent que en changeant de téléphone ou en changeant de device, ou si on se relogue pas pendant un certain temps, en fait, on peut plus remonter dans l'historique des messages. Alors que Telegram, c'est vraiment une messagerie qui est très populaire parce qu'elle est très user-friendly. Mais je ne parle pas seulement que des stickers, mais aussi de toutes ces fonctionnalités, de pouvoir accéder aux historiques de conversation, etc.
Après, il y a une fonctionnalité phénoménale avec Telegram, c'est aussi le bot phaser qui te permet de créer des bots en quelques commandes, quoi. Et ça, c'est vrai que ce soit Signal, que ce soit n'importe quelle autre messagerie, tout de suite, je pense qu'aucune n'arrive à la cheville de Telegram sur ces aspects-là.
Tu peux expliquer ce que c'est ?
Bot phaser ?
Oui.
Alors, de ce que j'ai pu en utiliser, c'est un bot Telegram sur lequel tu vas être en capacité d'enregistrer, d'inscrire un bot en lui donnant le nom que tu veux, etc. et qui va pouvoir par la suite interagir. Tu vas pouvoir lui envoyer des messages, il va pouvoir répondre avec du texte enrichi, avec des cartes, par exemple, différents menus. Enfin, c'est hyper riche sur la façon de comment tu vas être en capacité de pouvoir créer des conversations plus ou moins intelligente. Alors je pense que maintenant avec du GenAI, on peut aller encore plus loin. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu l'utiliser. Pour des notifications, majoritairement.
Pour les plus anciens, c'est un petit peu comme les bots IRC qu'on avait à l'époque, qui permettaient d'échanger des copies de sauvegarde de nos films, jeux vidéo ou applications. C'est un peu le même principe.
Alors justement, on va revenir sur les aspects fonctionnalités, parce que sur les aspects justement juridiques, les fonctionnalités, ou plutôt qu'est-ce que Telegram, est-ce que c'est une messagerie ou un réseau social, ça a beaucoup d'importance. Donc est-ce que c'est une messagerie, est-ce que c'est un réseau social, les deux, c'est quoi Telegram ?
C'est un réseau social, puisqu'il y a une fonctionnalité de forum. Ils ont ajouté, ils veulent ajouter un système de paiement à base de leur propre blockchain qui s'appelle The Open Network. Et c'est ouvert au public. Pour moi, un système de messagerie, c'est un système où tu dois avoir soit l'adresse email du destinataire si tu veux lui envoyer un mail, soit son numéro de téléphone si tu veux lui parler sur WhatsApp ou sur Signal, par exemple. Alors que sur Telegram, tu peux juste, avec un lien, tu peux rejoindre un canal, tu as des canaux publics. Et il y a de la modération aussi. Il faut savoir que les éditeurs du logiciel sont capables de supprimer des canaux pour violation. C'est ce qui est le cas du canal IGTorrent, par exemple, qui est bloqué en France. Donc, du coup, c'est, pour moi, c'est un réseau social. Après, je ne suis pas juriste et je n'ai pas envie d'être cité à la barre, mais c'est beaucoup plus proche du réseau social que la messagerie instantanée.
Il y a effectivement un certain nombre de débats là-dessus liés aux fonctionnalités directes de Telegram en particulier. Ils ont des capacités de faire du broadcast unidirectionnel. C'est-à-dire, moi, je suis le propriétaire d'un canal. Il peut y avoir une dizaine, centaine, peut-être même une centaine de milliers de personnes qui le rejoignent et je peux leur envoyer des messages à tous. Et ils n'ont pas la possibilité d'y répondre. Et en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Telegram un peu de cette manière, en s'inscrivant à plein de canaux différents et en recevant des notifications de ces différents canaux. Et ça ressemble au final plus à dire, un mur X ou Facebook avec un ensemble de messages qui arrivent en provenance de diverses personnes auxquelles on s'est abonné, plutôt qu'un canal de communication entre amis où on s'échange on converse les uns avec les autres.
Par exemple, The Hackers News a 129 000 abonnés sur Telegram.
Alors peut-être une question pour Marc-Antoine. Marc-Antoine, pourquoi est-ce que le fait que ce soit une messagerie ou un réseau social a de l'importance sur les aspects juridiques ?
En fait, la question, c'est comme ça qu'il faut effectivement la poser. Si je suis opérateur de communications électroniques, opérateur télécom pour le simplifier, je permets à mes users de communiquer en one-to-one, ou en tout cas de sélectionner les personnes à qui on peut se faire des conf calls. Ok, mais il y a une personne qui va contrôler ça. Quand je suis opérateur de communication électronique, un, je dois assurer la protection du privacy, le secret des correspondances. Ok, donc là, on est celui qui va permettre de transmettre un signal au sens technique du terme. Bon, l'opérateur télécom, il est tenu à des tas d'obligations, d'avoir des agréments et de déférer, enfin de répondre aux réquisitions judiciaires. C'est les fameuses fadettes. Hein, la police qui arrive, il dit le 06 machin a appelé quel numéro à quelle heure. C'est pas forcément le contenu des correspondances, mais c'est ça. Ça, c'est l'aspect communication électronique. Après, réseau social ou pas, en fait, en droit, c'est pas ça qui est intéressant. On a une nouvelle loi européenne depuis octobre-novembre 2022, le DSA, le Digital Services Act, et dedans, il y a une définition de plateforme en ligne. Et ça nous dit ça, je l'ai à l'écran, hein, vous allez voir, c'est pas long, est une plateforme en ligne soumise au Digital Service Act, un service d'hébergement qui, à la demande d'un destinataire du service, stocke ou diffuse au public des informations. Donc, si c'est au public et que c'est ouvert, on est une plateforme en ligne. On est hébergeur peut-être éventuellement aussi des contenus ou pas, mais en tout cas, on est soumis, quand on est plateforme en ligne, on est soumis au DSA.
Est-ce qu'on est soumis au DSA par sa nationalité, sa localisation, le fait qu'on fasse des affaires ?
Alors, on est soumis au DSA comme dans tous les textes européens à partir du moment où on impacte les consommateurs européens. Donc, qu'on soit situé à l'étranger et qu'on rende le service en partie sur le territoire national, pour prendre ce critère en tout cas en France, mais ça vaut dans tous les pays de l'UE, on est soumis au DSA. De même que quand on fait de la messagerie, mettons pure et dure, et que c'est utilisé depuis la France, même quand on n'a pas son siège social en France ou dans l'Europe, on est soumis à respecter l'ensemble des règles qui sont applicables sur le territoire national. Et en fait, le grand débat, qui n'est pas facile à comprendre, c'est que d'un côté, on a cette réglementation plateforme en ligne, réseau social en l'espèce, ça apporte rien sur le sujet. Mais c'est surtout l'aspect du droit pénal. C'est qu'aujourd'hui, semble-t-il, hein, je n'ai pas accès au dossier, mais j'ai fait comme Yvan, je me suis documenté. On a regardé quoi ? On a vu que depuis des mois, les services de police spécialisés notamment dans la lutte des atteintes aux enfants, la violence pédoporno, ensuite la criminalité très organisée en matière de vente de drogue et ce genre de trucs, eh bien, Telegram ne répond à quasiment aucune réquisition judiciaire. Alors que toutes les autres messageries le font dans les cas vraiment graves. Hein, c'est pas un problème d'atteinte à la vie privée, à la liberté d'expression. C'est pas du tout ça. Ça, d'ailleurs, Yvan l'a très bien dit dans une de ses tribunes publiées récemment. Le problème aujourd'hui, c'est que le droit pénal, c'est quoi ? Donc, il y a des juges indépendants, donc c'est pas une histoire politique, c'est des juges indépendants qui disent, bon, on n'arrive pas à obtenir l'émetteur et le destinataire d'un certain nombre de communications, one-to-one, one-to-many, ouvert au public, ça je ne sais pas, mais globalement, on n'arrive pas à savoir qui se sert de ça. On sait que ça sert pour de la criminalité bien dense, bien grave, donc on est dans le trouble à l'ordre public vraiment grave, hein, c'est pas le vol de sac à main l'arraché. Et bien dans ces cas-là, si Telegram, alors qu'on les a informés, ne font rien pour modérer en concret, empêcher les malfaisants en concret de se servir de l'outil, ils deviennent complices. Au sens pénal, en droit français, hein, c'est la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un délit. Si Telegram sait que massivement, dans des proportions que moi je ne connais pas, c'est les juges qui apprécient derrière, mais si Telegram a été informé, et c'est clairement le cas, que leur messagerie, service, sert beaucoup à des gens qui ont des buts malhonnêtes, graves, eh bien, moi, la justice, si je ne peux pas les bloquer, si toi, Telegram, tu ne m'aides pas à les bloquer, que tu sois français, sur le territoire de l'Union européenne, c'est le service rendu ici qui compte, captable, entre guillemets, depuis la France, utilisable depuis la France, eh bien, tu n'es clairement pas l'auteur, ce n'est pas toi qui vas vendre de la drogue, mais tu es complice. Et si tu es complice, je me réserve le droit de te poursuivre au pénal, donc je vais te coller un contrôle judiciaire, je vais te faire signer jusqu'à ce que je te signe un acte de poursuite et que là, après, on passe en phase de jugement.
Et est-ce que Pavel doit fournir l'ensemble des logs, des activités, des chats, par exemple, qui transitent sur la plateforme ? Je pense que ça doit être indécent en termes de volume. Mais est-ce qu'il doit fournir ça ?
Mais ce que demande la justice, c'est toujours des cas précis. C'est des soupçons sur trafic de drogue, de pédophilie, de je ne sais quoi, qui sont précis. Et cela, visiblement, il les a pas fournis quand on lui les a demandés.
C'est ça. C'est pas une obligation généralisée, mais c'est dans parce que heureusement on est un pays démocratique encore, sinon c'est ça veut dire qu'on valide Big Brother pour tout le monde. C'est vraiment la justice dans des cas identifiés chez eux, en clair dans des dossiers ouverts chez eux, pour des motifs graves, qui disent donnez-nous un certain nombre d'informations et lui ne répond pas.
Ouais, je pense que c'est vraiment important d'insister sur cet aspect-là parce que quand cette affaire est survenue, il y a beaucoup de gens qui l'ont, à mon avis, mal interprété et qui ont commencé à se dire ah mais là, on a une messagerie, alors je mets des guillemets, sécurisée, et le gouvernement s'attaque à une messagerie sécurisée parce que manifestement, ils n'arrivent pas à intercepter les communications, ou alors parce qu'ils veulent s'en prendre à la vie privée, ou aux moyens techniques que les gens peuvent utiliser pour avoir des conversations entre eux qui échappent au gouvernement. En fait, en pratique, c'est pas ça. Le gouvernement, ou la justice, plutôt, n'est pas en train d'essayer de mettre des limites sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire sur la plateforme. Elle est en train de dire c'est une plateforme, et donc quand on signale des comportements qui sont illégaux ou quand on a des suspicions, etc., et qu'on demande soit le retrait de ces contenus, soit une assistance de la plateforme, si la plateforme ne veut pas nous fournir cette assistance, eh ben auquel cas là elle se fait taper sur les doigts. Voilà, et c'est vraiment ça l'objet du débat. Et pour le coup, j'ai l'impression que outre-Atlantique, c'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre parce que ils ont dans leur culture cette ce premier amendement qui sacralise vraiment la liberté d'expression et la libre communication de toute opinion, quelle qu'elle soit. Et vraiment, quand je vois les commentaires qui sont faits sur la communauté plutôt américaine de la cybersécurité, eux, ils prennent le sujet tout de suite sur cet angle-là parce que ils n'ont pas du tout cette compréhension ou cette affinité culturelle que nous, on peut avoir avec cette notion que la plateforme, quand le gouvernement lui demande des comptes, c'est pas forcément pour museler la liberté d'expression ou pour la restreindre, c'est parce que ils veulent de l'assistance ou de la suppression de contenu qui, chez nous, est considéré comme illégal.
La justice.
Oui, pardon, je vais essayer de faire attention, mais je vais avoir du mal.
Oui, après, la liberté d'expression n'est pas absolue non plus aux États-Unis. Hein, si tu essayes de... Enfin, si tu lâches un petit tweet assassin critiquant les États-Unis, je te conseille de ne pas atterrir juste après un aéroport américain, quoi.
Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les chefs d'accusation que Pavel a eu ? Il y en a combien ? Et qu'est-ce que c'est exactement ?
12. 12 chefs d'accusation, principalement, c'est donc... alors, on peut les prendre... Il y en a trois types. Il y a d'abord tout ce qui est complicité de vente de drogue, complicité de transfert de contenu pédoporno. OK, là, il y a toute une liste. La deuxième partie, c'est vous ne répondez pas, vous ne coopérez pas, vous entravez la justice. Ça, c'est la deuxième partie, qui est la plus manifeste. À partir du moment où on dit « réponds-nous », la personne morale ou physique ne répond pas, très bien. Et le troisième volet, qui là est très sioux, c'est sur la cryptographie. C'est de dire « en fait, ta messagerie qui est utilisée en France, tu n'as pas fait ta demande d'autorisation préalable ou ta demande de déclaration préalable, ça c'est pénal et ça c'est vérifiable. Hein. Soit ça a été fait auprès de l'ANSSI, soit ça n'a pas été fait. Si ça n'a pas été fait, tu es en infraction et si les juges s'énervent, c'est jusqu'à 2 ans de prison. »
Ouais, en fait, le sentiment que j'ai en regardant tous ces chefs d'accusation, c'est que la justice est vraiment pas contente de ces interactions qu'elle a pu avoir par le passé avec Telegram en tant qu'organisation. Et donc, pour chaque type de dossier qu'ils ont eu et sur lesquels Telegram a refusé de coopérer, ils ont compté une complicité. Et donc, ils ont eu un dossier sur de fraude avec, par exemple, je sais pas, du streaming qui se passait, du streaming de match, des choses comme ça. Qui se déroulait à travers des canaux Telegram, ils ont fait une complicité de fraude. Il y avait des histoires de perte de pédopornographie, complicité de pédopornographie, et ainsi de suite. Voilà, pour arriver donc à tout un sandwich de complicité. Il a aussi pris pour association de malfaiteurs, qui est, je crois, un peu fourre-tout, mais qui a l'air de s'appliquer.
C'est ce qui a permis les 96 heures.
Voilà, il y a ça. Et voilà, le sentiment que j'ai eu, pareil, sur le manque de déclaration des moyens de cryptologie qui vraisemblablement touchent beaucoup de gens dans le pays. Je suspecte que ils l'ont rajouté vraiment parce que ils voulaient signifier un mécontentement, hein, et que à ma connaissance c'est la première fois que ce chef d'accusation est utilisé quelque part.
La deuxième, ça a déjà été utilisé, il y a une jurisprudence.
Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et si jamais la justice voulait aller enquiquiner des gens, enfin, ils pourraient s'en servir tous les 4 matins s'ils le souhaitaient, et c'est pas le cas. Donc là, ça montre vraiment qu'ils ont décidé que vraiment, là, ils allaient charger la mule et puis en mettre le plus possible pour que... envoyer un message finalement. Un autre point qui est intéressant qui s'est produit ce matin, c'est que la Corée du Sud a elle aussi divulguer des chefs d'accusation vis-à-vis de Pavel Durov. Je pense que soit ils avaient une procédure qui était également en cours de leur côté, soit ils ont décidé eux-mêmes, parce que ils avaient eu de mauvaises relations avec Telegram, d'en rajouter. Et donc ils ont annoncé qu'ils allaient coopérer pleinement avec les juridictions étrangères pour partager leur récrimination vis-à-vis de la plateforme. Et donc là, j'ai vraiment le sentiment que il va y avoir un gros dossier pour ce pauvre Pavel Durov, et que alors, c'est difficile évidemment de prédire quelle va en être l'issue, mais ils y vont de toutes les forces.
Est-ce qu'il lui est reproché en Corée, c'est du même acabit que...
Ouais, c'était pareil. Je crois que c'était complicité de diffusion de revenge porn, quelque chose comme ça.
Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire un parallèle aussi avec ce qui se passe au Brésil, où on sait que la justice brésilienne a constaté que X n'avait pas nommé de représentant au Brésil, comme c'est obligatoire dans la loi brésilienne. Et donc, ils ont dit, si vous ne respectez pas la loi brésilienne, là, ils ne s'en prennent pas directement au fondateur ou au propriétaire, mais ils s'en prennent déjà à la plateforme. Ils disent, on va vous interdire, qu'on va vous coller une amende monstrueuse, d'abord. Et ensuite, probablement dans un deuxième temps, c'est comme ça que fonctionne aussi l'Europe, on va interdire le service. Ça marche, ça ne marchera pas. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais dans la manière dont c'est fait juridiquement, on voit que c'est quelques personnes physiques qui détiennent des réseaux de communication. Pareil, je ne les qualifie pas, des plateformes, des ce qu'on veut, mais qui se retrouvent avec un pouvoir absolument incroyable, qui est de se substituer aux États en laissant dire... Soit, et ça peut être plus grave dans le cas de Telegram, qui est peut-être d'aider à organiser par des fonctionnalités particulières ou en connaissance de cause, certains groupes utilisaient la messagerie à des fins volontairement malveillantes. Et là, on a de la jurisprudence dans l'Union européenne là-dessus, qui dit que si à un moment, nous les Européens, on arrive à prouver qu'un réseau de communication, une plateforme en ligne, a sciemment organisé des fonctionnalités, des options de fonctionnalités, parce qu'on sait que ça va être utilisé par des malhonnêtes, là, on devient pleinement complice, là aussi. Et à mon avis, c'est là où les juges, en France, ont un levier vis-à-vis de Telegram. Est-ce qu'ils auront la compétence technique pour le prouver? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils en auront la volonté? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, et là, je rejoins Yvan, c'est qu'à un moment, la justice française est démunie, et à un moment, ils se sont dit, on tire toutes les cartouches qu'on peut, et puis on fait un listing, et puis on finit, tiens, la crypto, qui a eu la bonne idée? Ah, c'est super, on va rajouter ça, boum. Parce que pour 2 ans de prison sur le papier, qui n'ont jamais été mis en œuvre, à ma connaissance, au pénal, sauf des gens qui n'ont pas voulu remettre leur clé de déchiffrement, leur iPhone, parce qu'ils faisaient du trafic de drogue, mais ce n'était pas la fourniture du service en lui-même qui était incriminée. Ça, jamais j'ai vu de jurisprudence, ça fait quand même un moment que j'en lis. Là-dessus, c'est une grande première. Donc, on tape, on remplit la hotte du Père Noël et on lui dit, toi, avec tout ça, on te tient, et puis on va voir ce que feront tes avocats et ça va discuter. Je ne sais pas de quoi derrière.
Mais qu'est-ce que ça va changer au final ? Parce que je veux dire, tous les développeurs sont toujours à Dubaï ou aux Émirats, je ne sais plus. Il n'y a aucune chance que le réseau s'éteigne. Bon, Pavel va peut-être faire de la prison, peut-être qu'il va laisser de l'argent, peut-être qu'il va s'enfuir dans une malle, j'en sais rien.
Mais je ne suis pas sûr que les juges le savent eux-mêmes. C'est ça le problème. C'est que techniquement, moi juriste, je comprends à peu près le débat, mais si on me dit, on va interdire Telegram en France, moi, sur le papier, je veux bien, mais je suis incapable de dire, moi, avocat, si c'est possible ou pas. Et si vous ne le savez pas, on a une justice qui n'est donc pas efficiente. Dans les textes
c'est
actuels.
C'est exactement ce qui se passe au Brésil, si tu veux continuer le parallèle.
C'est ça.
Twitter était interdit, et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont interdit l'utilisation de VPN avec une amende de 9 000 € par jour. Parce que, effectivement, si tu peux. Enfin, c'est comme les histoires de. Tu parlais d'IPTV, etc. Si tu veux aller au bout du concept, il ne faut pas seulement condamner les FAI à bloquer ces sites dans le DNS, mais il faut aussi interdire l'utilisation de DNS qui ne sont pas contrôlés par des FAI. Enfin. Le blocage, c'est possible, mais ça n'a jamais été mis en œuvre de façon efficace dans un pays démocratique, parce que ça implique beaucoup d'effets de bord.
Et puis, c'est pas tenable dans la durée aussi. Tu prends un VPS, tu te crées une connexion, et puis c'est parti. Enfin, bon, je pense que... Et juste, je reviens sur les services avec Telegram. À partir du moment où donc Pavel a été arrêté, est-ce qu'il y a eu des quelconques outages, indisponibilités? Tout à l'heure, Nicolas parlait de la crypto-monnaie de la plateforme. Est-ce qu'elle en a pris un coup? Enfin, je sais pas. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des...
Non, zéro conséquence technique. Telegram continue de fonctionner. Moi, je l'ai utilisé ce matin. Mes messages sont arrivés normalement. Le seul impact qu'il y a eu, c'est que leur projet de crypto-monnaie maison qu'ils ont lancé, il a un peu dévissé en termes de cours. C'est pas sûr qu'ils qu'ils remontent bien. Ça pose des questions sur la. Ils étaient en fait Telegram était. Telegram est dans une phase là de monétisation en fait où ils ont une grosse part de marché, ils ont beaucoup d'utilisateurs. Maintenant ils se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour rendre le service rentable ou alors plus rentable, je sais pas. Et la crypto-monnaie spécifiquement c'était une de leurs pistes. Bon là elle a pris un peu du plomb dans l'aile et les plans futurs de l'entreprise ils sont encore mis en question. Mais l'aspect technique, tant qu'ils sont capables de payer la note de leur serveur tous les mois, la messagerie va continuer à tourner. En fait, si jamais demain tous les développeurs de Telegram avaient une crise cardiaque simultanément, la messagerie elle continue à tourner quoi. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une panne et qu'il y ait un problème pour que ça s'arrête. Et donc à ce titre-là, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer certainement un petit peu l'état d'esprit de beaucoup de développeurs de plateformes de communication. Je pense que ça va leur faire un peu l'effet d'une douche froide. Même si en pratique, je pense que 99% d'entre eux qui coopéraient déjà pleinement avec les forces de l'ordre, ils étaient déjà à l'abri puisque ils répondaient déjà aux réquisitions judiciaires. Donc pour moi, je vais pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais je pense que ça va pas changer grand-chose à l'écosystème.
Oui, parce qu'on peut préciser que Telegram se monétise déjà par d'autres manières, par exemple dans les canaux au-delà d'une certaine taille, je crois qu'il y a des messages de publicité qui sont insérés, il est possible de prendre des abonnements pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, etc. Quoi. Et en fait, la pérennité d'une plateforme, elle est plus liée à sa monétisation qu'à ses dirigeants.
Je confirme, pour des simples échanges, ça marche très bien et c'est gratuit, mais dès que vous êtes dans des groupes importants, il y a des publicités régulièrement, comme dans d'autres plateformes.
T'entends quoi par important, Hervé? Plusieurs milliers de personnes?
Alors, je vais... dans un 1200, oui, dans un groupe de 1200, il y a de temps en temps, au lieu d'avoir un vrai message, tu as une publicité. Ça répond?
Oui.
Mais
oui, donc...
Mais bon, moi, je n'ai jamais été gêné par les publicités parce que ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des publicités sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur absolument partout. Et il n'y en a absolument pas de manière excessive sur Telegram. Ou, enfin, je sais pas, on peut comparer à YouTube, je ne sais, c'est un peu pareil, quoi.
Tu devrais payer YouTube, Hervé, tu n'aurais plus de publicité.
En effet, et d'ailleurs, YouTube est très déçu que je refuse.
Mais moi, la question, quand même, s'adresse à Marc-Antoine. Que peut obtenir la justice? Enfin, elle peut condamner intuitu personae, n'est-ce pas, le dirigeant. Mais ce que tout le monde, ce dont tout le monde a peur, c'est est-ce que la justice peut obliger, par exemple, Telegram à positionner des backdoors et à ma connaissance, ce n'est pas le cas.
Non.
Alors, effectivement, il pourrait interdire le service en Europe. Mais ça, il n'y a pas besoin d'arrêter le PDG pour interdire le service. Tu demandes au FAI, au fabricant de téléphone de le faire, c'est tout.
Moi, je rejoins ce que disait Yvan tout à l'heure, c'est qu'à un moment, la justice française, pénale, notamment je crois que c'est quand même partie de problèmes pédoporno et de réseaux de trafic de films et de photos, machin, ils se sont dit, bon, on ne sait plus quoi faire. Elle est tapée sur l'entreprise en elle-même, je ne sais même pas comment est structurée Telegram, si c'est une société russe, une holding, j'en sais rien, mais... Ok, mais en tout cas, quand il y a le président, ou en tout cas celui qui se vend publiquement, enfin, c'est lui qui se pose publiquement comme propriétaire slash fondateur, et qu'il atterrit sur le territoire français alors que ça fait un mois qu'il a un mandat d'arrêt sur le territoire français, il y a des gens qui aiment jouer, lui, il a joué, il a perdu. Parce que la justice, là, ils disent, lui, au moins, on le tient, je sais pas, il va servir d'exemple. Ah, je sais que ça plaît jamais quand je raconte ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? S'ils veulent vraiment, la volonté des juges, c'est que ça s'arrête ou que ça progresse, enfin, progresse dans la protection des droits des personnes et du droit des poursuites, c'est peut-être la seule carte qui leur restait.
Alors, les éléments administratifs pour Telegram, je peux donner brièvement. Donc, la société, elle est gérée depuis Dubaï principalement. Il y a une quarantaine de développeurs qui sont, de ce que je comprends, en partie en télétravail de je sais pas où. Et la société elle-même, elle est implantée aux îles Vierges britanniques. Donc pour aller les chercher, bonjour.
Ok. Yvan, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin pour cet épisode?
Ouais, je pense qu'il y a un point important qu'il faut souligner dans cette affaire-là. Et peut-être d'ailleurs une réponse partielle à qu'est-ce que ça va changer plus tard, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan technique. Moi, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est de me dire que on parle beaucoup de chiffrement de bout en bout, le fameux end-to-end, comme la protection ultime pour les utilisateurs, ce qui est vrai, mais je crois que l'affaire montre aussi que le chiffrement des données, elle protège aussi l'opérateur, dans le sens où, spécifiquement dans ce cas de figure, la justice ne peut inquiéter Pavel Durov que dans la mesure où il était capable techniquement de coopérer avec les demandes. Et si jamais il avait mis en place ce chiffrement de bout en bout que d'ailleurs la communauté de la cybersécurité lui réclame depuis très longtemps, évidemment au détriment d'autres fonctionnalités qui pourraient peut-être plus proposer sur la messagerie, qui sont d'ailleurs très appréciées. Mais si jamais il y avait eu ce chiffrement de bout en bout qui était mis en place, alors tout à coup, toutes les demandes de coopération qui sont émises par la justice française, finalement, lui-même, en tant que PDG de Telegram, il serait plus en mesure d'y répondre. Et donc là, tous les chefs de complicité, tous les chefs d'accusation qui sont liés à ça, finalement, ils se dissolveraient comme du papier mouillé, quoi. Ça n'existerait plus. Donc je pense que c'est quelque chose qui, cyniquement, nous, en tant qu'experts en cybersécurité, apporte de l'eau à notre moulin, parce qu'elle nous permet de dire que, pour les opérateurs de plateforme, c'est pas juste pour les utilisateurs, finalement, qu'il faut veiller à cette sécurité des communications et des données, et aussi veiller à collecter le moins possible, mais c'est aussi pour leur protection à eux.
Je vais tout à fait dans ton sens, parce que la loi française, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, sur la cryptologie, cryptographie, cryptanalyse, pose derrière, en plus, dans le code de procédure pénale, des règles où on peut obliger quelqu'un à divulguer les clés de chiffrement. Et aujourd'hui, les gens, notamment, qui font de la blockchain, je ne parle pas des crypto-monnaies, je parle de protocole blockchain, ils disent, vous savez, nous, on a des clés publiques qu'on peut vous remettre, réquisition de la justice, on va vous remettre les clés publiques, mais les clés privées, si vous les déchiffrez, il faut aller les demander aux interlocuteurs, à chaque interlocuteur. Donc en fait, les plateformes, quand elles mettent en place du chiffrement, notamment asymétrique, elles disent, nous, on donne les clés publiques, pas de problème, les clés privées, on ne les a pas. Donc ils s'auto-protègent, tout à fait dans le sens que tu évoques à l'instant.
Donc en conclusion, quoi qu'il arrive, souciez-vous des aspects de cybersécurité. Yvan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.